Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le choix d'une vie pour parler sans tabou du désir ou non de faire un enfant. Aujourd'hui, nous allons échanger avec Jonathan. Jonathan a 25 ans et n'a pas d'enfant, du moins pas encore. Il est bénévole dans plusieurs associations et très engagé dans la cause environnementale. Quand je lui ai parlé du projet du podcast, puisque nous sommes sur le premier épisode, il m'a tout de suite répondu qu'il voulait avoir des enfants, avec un regard très optimiste sur l'avenir. Alors que dernièrement, les personnes que j'ai en face de moi s'interrogent plutôt sur le bien fondé d'avoir un enfant dans ce contexte très anxiogène. D'ailleurs, à ce sujet, si vous vous souvenez, l'an dernier, une étude américaine a été publiée et a suscité beaucoup de débats et d'articles dans la presse. Elle donnait une liste de comportements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le premier comportement, ce serait d'avoir un enfant en moins. Donc voilà, donc grand débat actuellement et j'avais envie de savoir ce que Jonathan, l'optimiste, en pense. Salut Jonathan.
Salut.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ta famille? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Quels souvenirs tu as de ton enfance? Et tout ça,
ça marche. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a pas mal dans tous les auditeurs. J'ai 25 ans, j'habite à Paris. J'ai grandi en banlieue parisienne entre la campagne et la ville, vers Ony, Cergy pour ceux qui connaissent. J'ai grandi chez mes parents. On est une famille de 6, donc j'ai deux parents et trois frères, donc un grand frère et deux petits frères. On a à peu près deux ans d'écart, les trois premiers, puis le dernier est un peu plus petit. Donc j'ai grandi dans cette région-là. Mes parents ne sont pas divorcés par rapport à pas mal de mes amis. Et j'ai fait mes études entre le sud de la banlieue parisienne, Toulouse, un peu des US et Paris, grosso modo. Et niveau... je veux dire, on est une famille, franchement je pense famille très standard française, pavillon en banlieue parisienne, puis voilà quoi, il n'y a pas grand chose à rajouter.
Et donc une enfance heureuse, ouais, une adolescence heureuse.
Franchement, ouais, je pense que j'ai été vraiment gâté par rapport à mes parents. Il y avait beaucoup d'amour dans la famille, il y avait très peu de disputes quand on était petit. Même avec trois frères, on était un peu rivaux, parce que les âges c'est... On était quoi, c'était quand on avait 6, 8, 10, on aurait pu se bagarrer un petit peu. Mais franchement, c'était tranquille. Il n'y a pas de grosses querelles entre frères. On avait plus ou moins des passions différentes. On faisait différents sports aussi, donc je pense que ça jouait un peu. Et on n'était pas non plus dans les mêmes écoles. Ça a peut-être joué aussi. Finalement, on ne se voyait peut-être pas tant que ça par rapport à d'autres. Et non, franchement, super, super enfance. Des parents qui se sont vachement bien occupés de nous. Ma mère qui se battait toujours pour nous trouver les meilleurs... on était toujours dans les écoles publiques. Et elle s'est toujours battue pour qu'on ait les meilleurs profs, pour que les profs suivent bien leur programme et qu'on puisse être épanouis dans ce qu'on fait. On a tous fait du sport et de la musique, en plus de l'école. Et ça, je pense aussi que ça ouvre un peu les horizons. Ouais. Au niveau artistique, au niveau vivre en groupe, sport co, sport individuel. Donc franchement, je pense que mon enfance, c'est clairement pas l'enfance de la majorité des gens. J'ai été vraiment gâté, ça j'en suis complètement conscient. Et je sais aussi ce que ça va impliquer derrière.
Et du coup, on y reviendra après, mais c'est vrai que quand tu m'as dit que toi, tu voulais... c'est clair que tu veux avoir des enfants plus tard, ça a peut-être joué, ça joue... sûrement, ouais. Un peu sur ça, parce que
très, très probable.
Finalement t'as, ouais, un super modèle quoi.
Ouais, c'est sûr que ça joue, parce que quand je vois comme notre enfance s'est déroulée, je me dis que il y a pas vraiment de raison que je puisse pas transmettre à peu près la même, peut-être ça sera peut-être pas aussi bien, mais au moins j'ai un modèle qui est vraiment top et j'ai des bases très très saines, je
pense. Ça peut mettre la pression aussi parfois d'avoir un modèle aussi, un, ouais, super modèle comme ça, parce qu'il faut, ouais, que tu te dises qu'il faut que tu reproduises aussi bien quoi.
Bah, je me dis tant qu'ils sont là, je vais en profiter, donc leur demander des conseils, et puis bon, j'ai pas encore d'enfant, mais quand j'en aurai, je pense que je leur demanderai comment vous avez fait pour que on fasse pas ça et ça. Mais ouais, je pense que c'est ça rassure énormément de voir que c'est possible, que ça se passe bien en fait.
Mais après, il y avait un. Je me dis toujours qu'il y a aussi un contexte et une actu générale et ambiante et mondiale qui fait que on a peut-être été privilégié aussi parce qu'on était dans une. Enfin, je peux pas dire une bulle, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce qu'on peut voir sur l'environnement, puisque c'est aussi le sujet, c'est ce sujet sur lequel je voulais discuter avec toi. C'est vrai que on n'avait pas tout ça il y a 20 ans. Enfin, c'était pas aussi dramatique aujourd'hui. Et
même il y a 10 ans, je pense.
Voilà,
même 5 ans.
Et donc toi, qui es très engagé dans cette cause environnementale. Et d'ailleurs, on va peut-être y revenir, tu pourras nous dire aussi voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour ça et depuis quand, en fait, tu as eu ce déclic-là et pourquoi tu es autant investi. Ça te fait pas peur dans tes réflexions et pour toi, c'est une évidence d'avoir des enfants, en fait.
Alors, plein de questions. Je pense que la première, je vais par rapport au déclic, entre guillemets.
Ouais.
Ce qui m'a un peu réveillé, c'est... En fait, c'est même pas vraiment la crise environnementale, c'était la crise des réfugiés.
Ok.
Où, en fait, je bossais dans une asso qui aide à loger les réfugiés. Et quand je voyais un peu les histoires des différentes personnes, qui étaient souvent les mêmes. Enfin, dans notre cas, c'était des réfugiés plutôt économiques qui venaient d'Afrique subsaharienne. J'ai un peu réfléchi à toute la situation. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que le consommateur final que l'on est, en Occident, je sous-entends, a un impact énorme dans sa manière de consommer sur l'autre partie du monde qui va être tout en amont du produit, toute la production, l'exploitation des richesses, etc. Et je me suis dit qu'en fait, tout ça, c'est un ensemble. Les questions environnementales, les questions sociales, etc., tout ça, ça va découler en partie de notre manière de consommer en Occident, parce que c'est quand même plus ou moins les pays occidentaux qui exploitent, entre guillemets, pas de manière négative forcément, mais qui exploitent un peu l'autre partie du monde, entre guillemets. Alors c'est très réducteur de dire ça, mais il y a un peu de ça.
Et tu es dans cette association depuis quel âge? Enfin, depuis combien de temps?
Depuis même pas très longtemps, depuis avril 2018.
Ok.
Et en fait, je me suis investi à ce moment-là parce que je trouvais qu'il y avait des choses à faire et qu'en tant que citoyen, on se doit d'agir et de pas attendre que tout vienne d'en haut. Et en plus de ça, du coup, je me suis dit, en fait, consommer, ça a un impact énorme. Et donc, j'ai commencé à réfléchir au niveau social et un peu justice. Et ça a découlé, en fait, sur la consommation en général, question environnementale, mais pas que question aussi sociale. Et du coup, j'ai mis le pied là-dedans, un peu, grâce à cause de la crise des réfugiés.
Ok, et de voir tout ça, justement, ça aurait pu te... Enfin, voilà, te... entre guillemets, te déprimer, quoi, parce que c'est vrai que c'est clairement des questions qui sont difficiles, et même te dire, pour l'avenir, quel impact ça peut avoir sur ta vie, quoi.
Ouais. Mais en fait, du coup, disons que jusque-là, donc jusqu'à mes 23 ans, je me posais pas énormément de questions sur tout ce qui se passait dans le monde, parce que j'étais dans les études, on est un peu focalisé sur des rendus, des stages, etc. Donc je prenais pas vraiment le temps de réfléchir à tout ce que aux valeurs que je voulais défendre et à ce qui me passionnait vraiment. Et quand j'ai commencé à y réfléchir, en fait, ça a impacté plein de choses. Et on est dans une situation qui peut être compliquée. Il y a un gros risque environnemental qui fait un peu peur. Je pense que ça joue aussi un peu là-dessus. Je pense que ça va être une période de crainte, et puis au fur et à mesure, on va arriver à prendre le pas dessus et puis être plus dans l'action et moins dans le constat. Mais je pense que tout le monde, dans toutes les générations, il y avait des scénarios catastrophes envisageables. Je pense que pendant la guerre froide, ils devaient tous flipper que les Russes ou les Américains balancent la première bombe nucléaire. En fait, je pense que c'est une crainte qui a toujours existé. C'est vrai qu'elle est un peu exacerbée à cause des problèmes environnementaux, mais ça se trouve, on le gérera très très bien. On ne sait pas exactement, mais...
On espère, en tout
cas. Ouais, c'est pas certain que ça va être la catastrophe. Et il y a un peu ce côté-là qui me rassure. Et le fait... Ouais, c'est ça. Surtout le fait que toutes les générations, je pense, ont traversé des crises plus ou moins graves. Et la nôtre, faut pas... En soi, je pense que il n'y a pas vraiment de différence avec les autres. Donc on n'a pas une crise incroyable à gérer par rapport aux crises précédentes, je pense.
Et je me souviens d'une phrase que tu as dite justement la dernière fois à l'un de nos collègues qui avait eu cette réflexion de se dire « Ouais, mais actuellement, faire un enfant, c'est égoïste. » Et toi, tu avais justement tout de suite rebondi sur le fait que c'était plutôt de pas en faire qui était potentiellement égoïste.
La réflexion par rapport à tout ça, elle est un peu... Il faut remonter un peu à la source du mariage, des relations hommes-femmes et tout. Moi, ma manière de comprendre les choses, c'est un peu c'est la manière chrétienne, entre guillemets. C'est à travers la Bible, ce que j'ai compris. En fait, moi, je vois vraiment le fait d'avoir un enfant comme la preuve d'amour ultime pour sa femme ou pour son mari, ça dépend qui on est. La preuve d'amour ultime, et du coup, qui n'est pas égoïste, mais qui permet de justifier, d'incarner l'amour entre les deux dans un enfant. Et je le vois pas du tout comme un truc un peu ouais, je vais avoir un enfant pour promouvoir, enfin pour prolonger mon nom de famille ou
ouais.
Pour avoir un petit moi ou un... Moi, je vois vraiment comme la manière d'incarner l'amour entre les deux personnes, enfin entre un homme et une femme qui sont mariés, quoi. Et du coup, vraiment pas comme une finalité égoïste.
Ouais. Et comme du coup quelqu'un à qui transmettre un être nouveau et qui transmette des bonnes valeurs et autant d'amour que tu as reçu, comme on en parlait
Par
au début
rapport à mes parents,
de cet épisode au final. Ok.
Mais du coup, ouais, je pense, enfin, ne pas vouloir d'enfant, il y a plein de raisons.
Oui, enfin, de toute façon, on n'est pas là, en tout cas, pour juger ceux
non,
qui en
ça.
veulent ou ceux qui n'en veulent pas. Mais en tout cas, le but de l'émission, c'est vraiment plutôt de débattre des questions qui... Enfin, des réflexions qui peuvent parfois nous dire est-ce que j'en fais un, est-ce que j'en fais pas. Et parce qu'on est plein de questions existentielles, c'est quand même une aventure de dingue. Quand on n'en a pas, en tout cas, moi qui n'en ai pas encore non plus, tu te dis... C'est vraiment l'inconnu, c'est une des seules choses dans la vie où tu te lances et t'as aucune emprise et tu sais pas si tu sais pas ce qui va se passer, en fait. Tu sais pas ce qui va se passer pour réussir à en avoir un, ni même une fois qu'il est là, enfin tu sais pas ce qui peut se passer, ce qui peut lui arriver, et c'est l'inconnu total. Donc c'est une aventure de dingue, et je pense que heureusement qu'on se pose toutes ces questions avant. Et après, bon, bah, pour celles et ceux voilà où ça arrive, où tu t'y attends pas, et ben voilà, tu t'avises et tu fais avec cette aventure de la vie aussi, ou pas. Mais en tout cas, quand tu peux avoir le choix et que tu te poses toutes ces questions-là, c'est vraiment le but, c'est de se rassurer peut-être aussi, parce qu'actuellement, il y a peut-être plein de gens justement qui se disent je fais pas d'enfant parce que j'ai pas envie de l'élever dans ce monde-là. Et c'est chouette d'avoir un regard un peu optimiste parfois sur la situation, plutôt que des trucs... que des idées hyper négatives tout le temps, quoi.
Ouais, le côté optimiste, c'est vrai, quand on voit un peu la situation, on peut... Moi, je pense que c'est un peu ta réflexion, c'est de se dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui va arriver dans 10 ans, et de vouloir protéger l'enfant, en fait, de manière un peu indirecte, en se disant le fait d'en avoir un, ça va impliquer que plus tard, il grandira sûrement dans un environnement très compliqué. Du coup, on en a peur pour sa vie, en fait. Je pense qu'il y a un peu de ça. Heureusement que heureusement que tu te poses cette question. Mais en fait, je pense pas que par rapport aux autres. Je veux dire, en fait, le fait d'avoir un enfant, c'est ça, c'est un peu une perte de contrôle. Il y a un côté, on maîtrise pas tout. On sait pas ce qui va se passer dans sa vie. Enfin, il y a vraiment un côté. J'assume de ne pas pouvoir tout maîtriser dans la situation.
Clairement.
Et ça, je pense clairement que si t'as... c'est trop bien que tu aies toute cette réflexion, parce que si tu l'as après, c'est un peu plus compliqué.
Ouais.
Donc créer l'environnement qui soit propice à ce que justement ils soient dans de bonnes conditions,
ouais,
c'est super
important.
Et puis,
comme tu disais, accepter de lâcher prise, quoi, parce qu'en effet, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et enfin, moi, c'est vraiment des grosses questions existentielles, mais de me dire, Oui, il faut être capable de tout accepter, qu'aussi bien tu puisses avoir un enfant malade, qu'un enfant à qui il arrive quelque chose de très grave alors qu'il a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Enfin, voilà, des sujets qui sont hyper durs, mais il faut quand même les avoir un petit peu en tête au début, quoi.
Ouais, ouais.
Et alors donc, toi, donc pour toi, avoir des enfants, c'est une évidence. Comment tu te vois, papa? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Justement, on a parlé d'amour, bien sûr, mais bon, après, on a commencé à cerner ton personnage, entre guillemets, donc on se doute bien quelques valeurs que tu vas avoir envie de lui inculquer, mais c'est quoi ton... Ouais, voilà, dans un monde idéal...
Disons que, première réponse, très honnêtement, tant que je ne suis pas marié, je ne me vois pas avoir d'enfant. Enfin, par exemple, je me vois pas adopter en tant que célibataire. Oh, coque. Je sais pas.
Ouais, des révélations avec cet épisode.
Tant que je suis pas en couple, je pense que c'est très compliqué d'imaginer avoir un enfant.
Oui.
Mais à partir du postulat où je me dis que okay, donc le jour où je serai en couple et que je serai marié, etc. Ouais, c'est vraiment une. Ça dépendra de ma femme aussi. Mais c'est une volonté, ouais. Malgré l'horizon duquel, enfin, qu'on mentionnait juste avant, que ce soit montée des eaux, que ce soit crise nucléaire, on ne sait pas ce qui va se passer. J'y réfléchirai aussi. Mais a priori, ce sera go. Et il y a un peu le côté optimiste, comme tu disais, où c'est peut-être lié à ma foi, je ne sais pas, mais le côté j'ai pas vraiment peur de ce qui va se passer. Parce que je crois que, entre guillemets, tout est entre les mains de Dieu. Et que dans tous les cas, il y a un peu des choses sur lesquelles on... C'est difficile de. Enfin, qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Et à ce moment-là, c'est plus ou moins. C'est entre les mains de Dieu, et puis je lui fais confiance, quoi. Donc il y a un gros côté. Mais ça, c'est personnel.
Oui, bien sûr.
Où c'est ma foi qui va aider dans certaines décisions. Donc peut-être le côté optimiste.
Et donc, du coup, si tu rencontrais une fille qui ne veut pas d'enfant, pour toi, ça, c'est impensable, pour le coup. Parce qu'il y a des personnes. C'est surtout, pour certaines personnes, en fait, c'est déjà tellement difficile de rencontrer la bonne personne qu'après, voilà, elle s'adapte au désir ou non de l'autre, tu vois. Et alors que certaines personnes, voilà, franchement, vouloir un enfant, c'est quand même quelque chose de très fort et limite, entre guillemets, viscéral pour certaines personnes. Et donc, c'est pas possible de se dire qu'elles peuvent être avec quelqu'un qui n'en veut pas, quoi.
Là, ce sera à discuter en couple, évidemment. Mais c'est je sais pas, ça va ouais, tellement
et donc enfin en tout cas pour on en discutera la question, on refera un épisode avec la demoiselle pour débattre mais donc sur les valeurs, en tout cas les valeurs que tu veux transmettre à ton enfant
Je pense qu'il y a deux, enfin en fait une valeur qui surpasse un peu toutes les autres, c'est l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. C'est en vrai, je pense que ça résume tout. C'est ce que je vis, et c'est ce que je veux lui transmettre sans l'imposer, mais juste lui montrer que c'est des valeurs qui sont importantes et qui valent le coup de, enfin on peut se battre pour les défendre, et en fait de là va découler tout le reste, je pense, parce que En aimant notre prochain, on a envie de le protéger, on a envie de créer un environnement dans lequel il peut, je pense aux SDF par exemple, dans lequel ils peuvent vivre correctement, mettre l'autre à la première place. C'est une valeur que je pense super importante et que je défends vraiment, et que j'aimerais que mes enfants puissent vivre aussi. Et donc ça, je pense que c'est vraiment valeur number one, c'est l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Et le reste, ça, je pense que ça en découle. Parce qu'il y a aussi un côté protection de l'environnement, la planète, Dieu nous a donné.
Au final, quand tu dis l'amour de ton prochain, c'est peu importe n'importe quel être vivant, au final. Et donc c'est aussi la planète et l'environnement et tout ce qui en découle, quoi.
Ouais. Les minorités, c'est ça. Et ça, c'est ultra concret comme valeur. Ça va découler sur la justice, sur de l'obéissance, sur de la politesse, sur un peu tout ça, un package.
Oui.
C'est les valeurs package.
Et donc l'étude dont je parlais dans l'intro, tu en as certainement entendu parler. Que penses-tu du fait de faire potentiellement moins d'enfants pour réduire ton impact environnemental?
J'ai pas mal réfléchi. Je trouve que c'est un peu une conclusion tirée à l'extrême. Parce qu'en fait, ce que ça sous-entend que un enfant, quand il va grandir, sera du coup potentiellement source de gaz à effet de serre. Ce qui est vrai. Mais en fait, il l'est parce que on va l'inclure dans un modèle de société qui est qu'en fait, qui consomme
Hyper
des gaz à effet de serre.
consumériste.
Ouais. Et c'est un peu comme si on disait pour que l'homme ait moins d'impact sur la planète, autant enlever l'homme, quoi. En soi, c'est ça.
Ouais.
Si vraiment on veut que ça aille mieux.
Ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai que
c'est suicide
réduire
collectif
la population, quoi.
Ouais. C'est un peu ça, tirer
ouais.
à l'extrême, c'est ça en fait.
Ouais.
Mais ce que ça implique, c'est que si on veut. En fait, c'est vrai, c'est un peu des questions générales sur l'être humain. Si on veut que l'être humain continue d'exister, il faut qu'on fasse des choix radicaux. Je pense pas que du coup c'est de plus avoir d'enfants parce que sinon la race humaine
ouais,
va s'éteindre.
L'espèce s'éteint.
Mais
Ouais.
c'est si on veut continuer de grandir en nombre, il faut qu'on ait des modèles de société qui soient radicaux au niveau respect de l'environnement, respect des ressources, respect des autres êtres humains. Sinon ça va être la cata. Et du coup je pense que ce que l'étude mentionnait, c'est que les autres choix à faire ou les autres solutions sont peut-être plus faisables de manière
Oui,
concrète aujourd'hui
bien
pour
sûr.
nous. Et permettre en fait à tout le monde déjà de changer et de réduire notre impact environnemental. Et par rapport à ça, il y a tellement de trucs qui sont super puissants, mais qui mettent du temps à être appliqués, que ce soit au niveau politique ou même au niveau de nos habitudes. Je vois la motivation qu'il faut pour arriver à changer de mauvaises habitudes. C'est ultra complexe dans le monde dans lequel on vit. J'ai
Ouais, et
lancé
au moins,
un.
ce qui est cool, c'est qu'avec des enfants, on peut
Leur
leur apprendre dès
apprendre
le départ
correctement. Ouais.
à consommer responsable, quoi.
Ouais. Et parce qu'en soi, si les enfants, les nouvelles générations sont élevées de telle manière à ce qu'on leur enseigne qu'il y a aussi un respect des ressources à avoir, que les déchets ils doivent être limités, que on peut pas avoir enfin, il y a un luxe dans lequel on vit dont il va falloir se séparer. Si on commence à leur apprendre ça, on peut faire des générations qui sont, en termes de
Ouais.
gaz à effet de serre, beaucoup plus respectueuses et qui nous
Complètement.
permettront de faire perdurer la race humaine, quoi.
Pour les auditeurs, je mettrai quelques liens sur cette fameuse étude, en tout cas des articles de la presse française sur l'étude dans le résumé du podcast. Mais il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus simples, comme limiter l'utilisation de la voiture, faire attention quand vous prenez l'avion. Voilà. D'ailleurs, on vous donnera un site internet à la fin de l'émission qui sera le bon plan du jour pour planter des arbres si vous prenez l'avion. En échange de vos vols en avion, faut planter des arbres. Voilà, manger moins de viande, manger de la bonne viande. Enfin, voilà, des choses qui sont quand même beaucoup plus simples et qui peuvent se faire tous les jours, quoi.
Et ouais, juste pour rebondir là-dessus, j'ai lancé en septembre avec un ami une sorte de coach qui envoie des défis par SMS toutes les semaines pour aider à justement prendre les habitudes et arriver à abandonner un peu le mode de vie ultra consumériste qu'on a. Et quand je vois les retours, en fait, les gens galèrent de fou pour arriver à abandonner des mauvaises habitudes.
Oui.
C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et l'effet de groupe, je pense, est super important. Si ça devient une mode, on le voit en Suède avec la mode de plus prendre l'avion. Il y a un peu un côté, c'est devenu honteux, quoi. Parce que c'est entré dans les valeurs qui sont appréciées par la société. Et du coup, bah, par effet de mimétisme, etc., on a envie de faire un peu comme les autres et d'aller tous dans la même direction, de moins prendre l'avion. Si ça devient vraiment quelque chose de trendy, de respect, enfin de respectable par
Ouais, en tout
le
cas,
reste
si
du
ça
monde,
devient la norme,
ouais.
entre guillemets, ouais, c'est beaucoup plus
Il y aura un
facile.
impact et ça sera très rapide, je
Et
pense.
c'est quoi le nom de
Ça
ton
s'appelle
coach?
maintenant.co.
Ok. C'est une appli ou un site?
Non, en fait, il faut s'inscrire sur un site.
Ok.
Une fois qu'on est inscrit sur le site, on reçoit les SMS par. Enfin, les défis par SMS tous les jeudis soirs.
D'accord.
Et l'idée, ouais, c'est d'être vraiment, que ce soit vraiment très simple. Un rappel par semaine. Sachant qu'il faut en général, enfin, c'est un peu. Règle du pouce, c'est il faut 21 jours pour apprendre une nouvelle habitude.
Ok, bon bah, chers auditeurs, Je vous invite du coup à aller vous inscrire pour avoir de bonnes habitudes et qu'on soit tous dans cette même mouvance vers un monde plus responsable et avec de bonnes valeurs pour nos enfants.
Ouais, qui nous permettra d'avoir des enfants.
Et de sauvegarder notre planète surtout. Ouais. Merci Jonathan d'avoir partagé avec nous ton point de vue.
Merci à toi.
Un premier épisode sous le signe de l'optimisme, ça fait du bien. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à en parler autour de vous pour m'aider à faire connaître Le Choix d'une Vie. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte Le Choix d'une Vie Podcast, pour suivre l'actualité du podcast et me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur remixradio.fm et les autres plateformes de podcast. À bientôt !